Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le magazine du week-end, votre rendez-vous d'actualité que vous retrouvez chaque samedi et chaque dimanche de l'été. On est ensemble jusqu'à 13h50. Un ancien chef d'État en prison et un nostalgique de la dictature militaire, voilà les deux favoris de l'élection présidentielle au Brésil. La campagne a officiellement commencé cette semaine, on en parle à partir de 13h15. Mais d'abord, alors que les attaques de boucheries par des militants véganes se multiplient, comment défendre aujourd'hui la cause animale? C'est notre premier sujet.
C'est un peu toutes les angoisses que j'ai tous les matins, c'est d'avoir la vitrine abîmée. En arrivant, dès que j'ai vu les inscriptions, malheureusement, ça a bien confirmé ce que je pensais. Je suis déçue, j'ai mal au cœur, je suis attristée, et parce qu'on attaque notre outil de travail.
Il y en a beaucoup qui deviennent véganes, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent, mais qu'on ne fait pas de l'extrémisme, quoi, ça résout à rien, quoi. Et j'ai peur qu'un jour, il y ait une manifestation végane et que là, il y a un groupe de bouchers qui va faire aussi de l'extrémisme et qui va y aller. Et là, ça va se finir par un drame. Et ça serait malheureux quand même.
Pour l'instant, je suis à 2000 euros de pertes financières.
Ça fait mal.
Ça fait mal. C'est même pire que mal, ouais.
Nous avons des clients qui aiment la viande, qu'on les laisse tranquillement manger leur viande, qu'on nous laisse tranquillement faire notre travail, faire notre métier, c'est tout ce qu'on demande.
On entendait, entre autres, Jean-François Guillard, président de la Fédération des bouchers charcutiers des Hauts-de-France, qui a demandé fin juin une protection policière à Lille contre les militants véganes. Sept boucheries ont été aspergées de faux sang dans la région et en un an, plus d'une centaine de boutiques auraient été vandalisées en France. Alors assiste-t-on aujourd'hui à une radicalisation de la cause animaliste? Peut-on promouvoir les droits des animaux sans action choc ni slogan trash? L'antispécisme est-il un combat comme un autre ou un projet de société? Eh bien, pour en discuter, nous avons choisi de recevoir trois militantes au parcours et aux méthodes bien différents. Bonjour Brigitte Gauthier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice et porte-parole de l'association L214, qui s'est rendue célèbre avec ses vidéos tournées dans des abattoirs. Et vous contribuez également à la revue Cahier antispéciste. À vos côtés, Tiphaine Lagarde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice et porte-parole de 269 Libération Animale, une association qui s'est démarqué par des opérations choc, notamment des blocages d'abattoirs et des libérations d'animaux. Et enfin, notre troisième invité est Muriel Arnal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous présidente, fondatrice de l'association One Voice, qui mène entre autres des actions contre l'exploitation des animaux dans les cirques. Merci à toutes les trois d'être avec nous. Alors d'abord, un premier mot sur ces actes de vandalisme. Alors je précise qu'aucune de vos associations ne soutient directement ce type d'action. Mais est-ce que ce n'est pas le signe que la cause végane est aujourd'hui de plus en plus radicale, Brigitte Gauthier?
Je crois que la question antispéciste et la question du véganisme a toujours été extrêmement radicale par rapport à la position qu'on a aujourd'hui, qui est de fermer les yeux en fait sur le fait de tuer. Alors juste en France, plus d'un milliard d'animaux terrestres chaque année dans les abattoirs et des milliards d'animaux aquatiques. Ce type d'action a déjà eu lieu dans les années 90, donc on peut pas dire que c'est aujourd'hui phénomène très très nouveau. Après, je crois que les organisations ont effectivement des modes d'action très différents, mais je crois que ce qu'on a en commun, c'est vraiment l'idée de promouvoir un monde bien moins violent que ce qu'il est aujourd'hui, et toutes les actions qui ont eu lieu jusqu'ici sont non violentes. Et d'ailleurs, on entend dans les témoignages là qui ont été passés que la violence, eux craignent en fait, appellent à cesser ces actions parce que eux pourraient devenir violents vis-à-vis des personnes qui mènent ce type d'action.
Muriel Arnal, est-ce que vous parleriez vous aussi d'une radicalisation de la cause, et est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut finalement desservir le combat en faveur des animaux?
Pour nous, c'est un phénomène extrêmement restreint, qui est médiatisé certes, mais qui est un phénomène qui n'existe quasiment pas. Nous faisons un travail tous autour de cette table de fond, et il y a du désespoir. C'est peut-être la manifestation de désespoir que l'on doit entendre, mais ça a existé dans les années 70, dans les années 80, comme disait Brigitte, dans les années 90, et ça n'est pas le combat et ça ne sont pas les problématiques auxquelles nous devons faire face.
Tiphaine Lagarde, vous assumez une certaine radicalité dans votre positionnement, dans certains happenings de votre association. Il y a des militants qui miment par exemple des mises à mort d'animaux, le corps couvert de faux sang. Pour vous, il faut choquer pour faire passer un message. On a besoin d'une radicalité dans cette cause ?
Oui, et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je ne pense pas que ces militants qui brisent des vitrines soient des gens désespérés. Je pense que c'est des gens qui réfléchissent, au contraire. Et les suffragettes disaient que l'argument du carreau brisé était le meilleur argument politique. Et je crois que vu que la médiatisation aujourd'hui, justement, du sujet des vitrines de boucherie cassées, leur donne raison, malheureusement, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est l'État qui ne nous laisse pas le choix. Nous écoute-t-il quand on milite de manière traditionnelle, de manière légale ? Il ne nous écoute pas, la preuve encore, il y a un mois ou un peu plus, avec toutes les réformes de bien-être animal qui ont été retoquées directement. Donc aujourd'hui, je pense que l'action directe est une nécessité. Je ne dis pas qu'il faut briser des vitrines, mais je dis qu'aujourd'hui, oui, il faut radicaliser le mouvement antispéciste et que c'est une absolue nécessité. Il n'est pas aujourd'hui assez confrontationnel, il n'est pas aujourd'hui assez menaçant et que le rapport de force est une obligation dans un mouvement social, sinon il n'est pas pris au sérieux.
Alors fin juillet, le gouvernement de la Wallonie a donné son feu vert à la création d'un code du bien-être animal. Il prévoit une interdiction de l'élevage des poules en batterie, des cirques sans animaux sauvages, une obligation de caméra dans les abattoirs et l'interdiction notamment de détenir un cétacé, ce qui va entraîner l'interdiction de tous les delphinariums. Brigitte Gauthier, la France fait pâle figure à côté ?
Oh bah oui, très clairement, comme l'a rappelé Tiphaine, quand on a des discussions autour de projets de loi qui pourraient donner des avancées, même minimes, mais qui supprimeraient des pratiques qui sont aujourd'hui d'une cruauté sans nom, hein, quand on laisse pendant un an des poules dans des cages, quand on se permet de castrer à vif des animaux, quand on se permet... On est dans de la cruauté, mais dans une cruauté aggravée encore, puisque le fait même de considérer les animaux comme des ressources à notre disposition, déjà on est dans une possession de l'animal et il n'est plus considéré en tant qu'individu, en tant qu'être sensible, mais en tant que simple ressource à notre disposition et même la moindre des avancées qu'on demande, qui est pourtant soutenue très largement par l'opinion publique, nous est refusée sous prétexte qu'il faudrait faire confiance aux filières, etc. Donc en France, effectivement, on est très en retard sur un chemin qui est malheureusement assez long vers l'abolition.
Et voilà, mais justement, on a le sentiment que la cause végane n'a jamais été aussi présente dans le débat public. Muriel Arnal, vous parliez tout à l'heure de désespoir, peut-être des militants. Pourtant, on n'a jamais autant avancé dans la cause du bien-être des animaux.
C'est un mouvement mondial. C'est un mouvement mondial et très clairement, la France est très en retard par rapport à ce mouvement mondial. Parce que la souffrance animale, la vie des animaux n'a pas de frontières. On a tendance à compartimentaliser, mais ça n'est pas le cas. On a eu... par exemple, une décision très courageuse de Ségolène Royal qui avait adopté un arrêté menant à terme à l'interdiction des delphinariums en étant extrêmement pragmatique et dans le respect de tous. Cet arrêté a été retoqué au Conseil d'État et nous attendons toujours que le nouveau ministre prenne un nouvel arrêté. De la même façon pour les cirques. Nous avons dû lutter pendant 2 ans pour une éléphante handicapée mourante, puisque les plus grands experts internationaux disaient qu'il fallait l'euthanasier pour qu'elle soit sortie du cirque. On en est là alors que 55 éléphants sont tués chaque jour dans la nature et que même Ségolène Royal et ses équipes l'avaient écrit dans le texte de l'arrêté. On sait que la captivité des animaux sauvages a un impact sur la biodiversité. Parce que quand des enfants vont assister à de tels spectacles, ils n'ont pas ensuite... Ils ne sont pas éduqués et motivés à protéger les animaux dans la nature. Les études le montrent. Donc aujourd'hui, on est face à une urgence planétaire. On entend parler de tortues au Mexique, du décès de Kofi Annan, et qui, avec les elders, ont fait un travail de réflexion qui va au-delà de l'animal, mais qui englobe l'animal. Et c'est extrêmement triste de voir à quel point la France est immobile. Et c'est pour ça que quand on va à l'étranger, on est heureux de se retrouver entre nous, ouais. Parce qu'on se soutient et alors, on avance ensemble.
Alors justement, je voudrais qu'on parle de la question des méthodes, en effet, parce que donc L214 s'est rendu célèbre avec ses vidéos. Et en effet, on a vu en mai dernier que l'obligation d'installer des caméras dans les abattoirs n'a finalement pas été retenue dans le projet de loi agriculture et alimentation. Finalement, l'Assemblée a voté pour le principe d'une expérimentation de cette vidéosurveillance pendant 2 ans dans les abattoirs qui se porteront volontaires. Alors voilà, la question qu'on se pose, Brigitte Gauthier, c'est est-ce que finalement la méthode ne marche pas, et est-ce que vous envisagez de nouvelles stratégies au sein de L214?
On est toujours en recherche de du moyen d'être le plus efficace possible. Les vidéos, elles n'avaient pas simplement comme objectif d'avoir des lois qui limitent un peu la souffrance de toute façon inhérente au fait de mettre à mort les animaux, et puis bah ne pas oublier, dans les abattoirs on les prive de ce qu'ils ont de plus précieux, leur vie. Enfin, de toute façon, comment réglementer un acte aussi terrible que de tuer un individu plein de vie. Alors oui, on se pose plein de questions. N'empêche que jusqu'ici, les vidéos, elles ont quand même permis une prise de conscience. Les gens savent évidemment que pour obtenir de la viande, on tue des animaux. Mais il y a une différence entre savoir et voir, d'une part. Et voilà, les gens, ils ont déjà pu réaliser, l'opinion publique a pu réaliser l'ampleur de ce qui se passait pour les animaux, de voir les animaux résister aussi, de voir que les premiers résistants par rapport à ces choses-là, effectivement, il y a les militants qui parlent pour les animaux, mais il y a les animaux eux-mêmes qui tentent d'échapper au couteau. Et puis, il y a un certain nombre, par les images qu'on a montrées, notamment les images de poules pondeuses en cage, un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui ont pris l'engagement de ne plus s'approvisionner au moins auprès de ces entreprises-là. Et de plus en plus qui vont vers des options véganes. Donc, tant qu'à faire, autant avoir davantage d'options pour pouvoir avoir un choix plus facile, déjà personnel, de ne plus consommer les animaux.
Mais alors la question, c'est aussi quel message on veut faire passer, Tiffaine Lagarde. Est-ce que vous, vous promeuvez une amélioration du bien-être animal, ou directement une suppression totale de l'élevage? Est-ce qu'il faut y aller pas à pas, ou est-ce qu'il faut directement aller vers cette suppression?
Mais je crois que là-dessus, on est toutes les trois d'accord. On représente des associations qui sont abolitionnistes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le débat, il est davantage peut-être sur la stratégie. Et Brigitte, justement, parlait des vidéos de L214. Elles ont créé une formidable avancée dans l'opinion publique. Mais il fallait justement se saisir de ce moment-là pour faire un changement stratégique dans le mouvement antispécie. C'était le moment d'importer l'action directe. Et si nous, on a pu le faire, c'est parce qu'il y a eu ce sursaut dans l'opinion publique. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il ne faut pas cibler que les consommateurs. Les consommateurs sont pris dans un système global, au sommet duquel il y a l'État et le système économique, les entreprises. Et c'est important de les viser aussi, de les cibler dans notre militantisme. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire par l'action directe. Parce que l'action directe, elle a ce pouvoir de mettre l'État hors champ. Et l'État n'aime pas ça. C'est pour ça aussi qu'il réprime aujourd'hui ce mode d'action de manière très sévère. Pas que l'association que je représente, mais dans d'autres luttes également. Mais c'est important de l'importer. Parce que le mouvement, à ses débuts, il a besoin d'être très contestataire. Il a besoin d'être dans la confrontation. S'il ne passe pas par cette étape-là, c'est après, on ne peut pas négocier. C'est trop tard. On n'est pas dans un rapport égalitaire aujourd'hui avec l'État. Aujourd'hui, il se moque de nous royalement. Et c'est pour lui, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas un problème. Eh bien, il faut qu'on le devienne.
Et Tiffaine Lagarde, est-ce que vous diriez qu'il y a une dette aujourd'hui des militants antispécistes? Alors, je rappelle que c'est un terme qui définit ceux qui croient dans une différence. Les antispécistes croient en une différence de degré et dans le nom de nature entre l'homme et les animaux. Est-ce que vous diriez qu'il y a une dette des militants antispécistes vis-à-vis d'une association comme l'ALF, l'Animal Liberation Front, malgré ses controverses? Alors, je rappelle que c'est une association anglaise qui s'était fait connaître dans les années 60 pour avoir attaqué des laboratoires pharmaceutiques et incendié des cabanes de chasse.
C'est des modes d'action qui ont eu effectivement leur pertinence. Le problème, après, c'est peut-être le message politique derrière qui n'était pas correctement diffusé, voire pas du tout. Et du coup, il faut toujours accompagner, je pense, l'action directe aussi d'un discours très construit. Et c'est ce qu'on essaie de faire, parce que l'un sans l'autre, de toute façon, ça ne marche pas. Il faut expliquer pourquoi on change de cible. On a eu cette volonté d'intervenir, donc, par exemple, dans les facultés occupées, au moment du mouvement de mobilisation contre Parcoursup, justement, pour aller expliquer ce qu'on faisait, pour aller expliquer l'action directe, d'où elle venait, parce que tout ça, ça s'inscrit dans l'histoire aussi. Aujourd'hui, quand on est militant, on a un devoir aussi de se renseigner sur ce qui s'est passé avant, sur comment les luttes contemporaines fonctionnent, etc. Et ça doit nous inspirer, ça doit parfois aussi nous montrer ce qui ne marche pas, ce qui marche, etc. Et c'est important du coup de réinscrire tout ça dans un combat plus global peut-être.
Alors parmi les grandes références de la lutte pour les droits des animaux, il y a une figure, celle d'Henri Spira, un activiste de la première heure qui s'est lancé à corps perdu dans ce combat dans les années 70. Henri Spira, c'est une grande référence pour L214, Brigitte Gauthier, parce qu'il y a cette idée, alors c'est sa fameuse théorie du tube de dentifrice, il faut à la fois proposer des alternatives et en même temps faire pression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
C'est ça, oui. L'idée d'Henri Spira, c'est de dire que en fait, tout n'est pas figé. Les acteurs peuvent bouger. On n'est pas forcément en face de personnes de mauvaise volonté, mais juste des personnes pas informées. On peut dire aujourd'hui que 99% des gens ne veulent pas de mal aux animaux, mais par leurs actes quotidiens, par leurs décisions quotidiennes, créent une somme de souffrance qui est absolument incommensurable. Et donc l'idée, c'est d'aller les chercher. Et il y a des
Qu'est-ce qu'on propose aux entreprises, par exemple, dans la filière de la viande, et de quelle façon, en même temps, cette pression s'exerce-t-elle ?
Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut demander aux entreprises, effectivement. Il y a, d'une part, ne plus commercialiser, ne plus utiliser des produits issus des pratiques les pires. Donc, par exemple, les œufs de poules élevés en cage, mais aussi on peut parler d'un certain nombre de pratiques qui sont encore utilisées aujourd'hui. Enfin, on peut parler du broyage des poussins, on peut parler de la castration à vif, on peut parler des mutilations à vif, on peut parler des séparations des mères avec leurs petits. Enfin, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut agir aujourd'hui,
mais
pour laquelle notre société est mûre.
Brigitte Gauthier, si jamais l'élevage vraiment est totalement supprimé, s'il n'y a pas d'élevage, qu'est-ce qu'on fait de ces millions d'animaux
qui existent? Alors ça, c'est une autre question. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on n'en est pas à cette étape, et vivement qu'on en soit à se poser ces questions, parce qu'elles seront cruciales au moment où on va se les poser.
Mais aujourd'hui, on a beaucoup de mal à voir se dessiner une stratégie, parce qu'effectivement, vous êtes toutes les trois dans des associations abolitionnistes, donc s'il n'y a plus d'élevage, la question se pose réellement. Et quand on parle d'alternatives à proposer aux professionnels de la viande, voilà, qu'est-ce qu'on leur propose ?
Y a un certain nombre de professions qui ont disparu au cours du temps parce que il y a eu modernisation, parce que il y a eu évolution, et on pleure pas sur des professions qui ont disparu naguère. Enfin, voilà, c'est aussi l'évolution de notre société. C'est peut-être ça, justement, la culture, la tradition de l'humanité, c'est de se remettre en question, effectivement, par des mouvements qui, au départ, sont minoritaires et qu'on a pu juger comme étant complètement hurluberlus au départ, mais qui ont pris de la force, qui ont su convaincre par différentes stratégies, par différentes méthodes, et qui, finalement, aujourd'hui, on y n'imaginerait pas dans notre société vivre encore avec des personnes en état d'esclavage, même si rien n'est parfait encore aujourd'hui.
Oui, mais ça suppose des actions qui peuvent être considérées comme violentes. Si jamais on ne veut plus d'animaux d'élevage, ça veut dire qu'il va falloir les castrer pour ne pas qu'ils se reproduisent, Tiffaine Lagarde. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?
Mais ça, je crois que, comme Brigitte vient de le dire, effectivement, c'est des questions qui se posent pas de toute façon encore à l'heure d'aujourd'hui. Tout à l'heure, vous évoquiez l'avancée du véganisme, mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Oui, effectivement, il y a des éditos dans les magazines sur la mode végane. Ça fait même vendre pour des stars en mal, de vente de disques ou de films.
Il y a une récupération commerciale importante.
Il y a une récupération commerciale qui est honteuse, qui n'est absolument pas du militantisme d'ailleurs. Mais derrière, qu'est-ce qui a changé pour les opprimer ? Parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'humains, mais est-ce qu'on parle des premiers concernés qui sont quand même les animaux? Pour eux, rien n'a changé. C'est de pire en pire. Donc c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et dans le mouvement antispéciste, il y a quand même un impensé de la stratégie. On a du mal à se poser, à se dire, on est tous dans l'échec. Aujourd'hui, il faut quand même constater un échec global pour tout le monde. Je parle y compris, bien évidemment, de mon association. Ça va de soi. Il y a un échec. Et ben, si ça ne marche pas, il faut peut-être aussi réfléchir à d'autres voies, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est ça. Les stratégies, comment on fait ? C'est bien qu'il faut expérimenter inventer de nouveaux modes d'action. Et donc, c'est important à ce titre-là aussi de parler d'autres luttes. La cause animale pratique beaucoup l'entre-soi, c'est dommage. Dans des luttes contemporaines ailleurs, il y a des choses qui se passent, on réfléchit aux stratégies. Il faudrait faire la même chose dans la cause animale et créer aussi des alliances avec d'autres luttes contemporaines. Je pense que ça serait une très, très bonne chose.
En effet, les grands industriels de la viande commercialisent de plus en plus de produits véganes eux-mêmes, et notamment des saucisses sans matière animale, alors qu'ils coûtent 70% plus cher et qui sont un concentré de composants artificiels. Donc finalement, on peut être vegan et bien peu respectueux de l'environnement ou bien peu soucieux de remettre en question la mainmise de l'agro-industrie sur la chaîne alimentaire. Brigitte Gauthier, est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence?
Je crois que ces substituts à la viande ne s'adressent pas forcément à des personnes antispécistes ou véganes. Elles s'adressent aux personnes qui réduisent aujourd'hui, qui sont flexitariens et qui, de toute façon, auraient pris les saucisses à côté qui étaient fabriquées à base de cochons morts, de cochons tués. Donc, tant qu'à faire pour ces entreprises-là, il me semble qu'il est quand même préférable qu'elles aient des produits véganes plutôt que des produits à base d'animaux morts, et que ça montre quand même, j'ai pas tout à fait le même constat que Tiffaine, je trouve que notre société elle est lente à bouger, mais qu'il y a quand même des signes qu'il y a une évolution qui est en train de se faire, qui est évidemment trop lente, qui évidemment pose la question de comment aujourd'hui on change de braquet, on change de stratégie, on est en recherche. Effectivement, on est à l'écoute des mouvements aussi autres. On est très curieux de ce qui se passe dans d'autres luttes. Mais on ne perd pas de vue aussi que l'idée, c'est d'emmener une société qui en est à un point aujourd'hui vers un autre point. On part de loin quand même sur la question animale.
Il y a des avancées de loin. En effet.
Il y a des considérations économiques qui brouille tout. Il y a aussi le fait de se chercher des excuses, la dissonance cognitive. Oui, moi je ne veux pas de mal aux animaux, etc. Puis de l'autre côté, il faut que je mange de la viande. Enfin, on se cherche tous des excuses pour continuer à faire les pratiques qui sont les moins reluisantes chez nous. Et moi, je suis militante par contrainte parce que je me suis retrouvée en face d'une injustice. Mais quelque part, j'ai envie que l'antispécisme ne soit pas quelque chose de militant, mais soit quelque chose d'installé. Mais je pense que c'est l'objectif aussi de tout le monde.
Je voudrais qu'on entende
que ce
quand
soit
même
notre mode de fonctionnement normal. Quoi.
Je voudrais qu'on entende quand même Muriel Arnal, après Gap, Zara, H&M et Top Shop, la plateforme de vente de prêt-à-porter en ligne ASOS vient d'annoncer qu'elle renonçait au mohair. Finalement, ce qu'on constate, c'est que la pression sur les grandes entreprises marche beaucoup mieux que les législations.
Elle marche, et si on a parlé d'Henri Spira, je prendrai l'exemple des cosmétiques. Un tout petit nombre d'animaux par rapport aux 2 millions qui sont expérimentés, qui sont actuellement, à l'heure où on parle, expérimentés dans les laboratoires. Eh bien, nous avons obtenu le vote de la directive. Cela a pris 23 ans de combat. Et quand nous avons obtenu cela, il a fallu accompagner aussi les entreprises. Et pendant tout ce temps-là, proposer des options et faire pression sur les entreprises.
Et donc développer sur les tests, développer les tests qui ne soient pas sur les animaux.
Qui sont toujours en développement. Mais les entreprises ont été mises au pied du mur par les consommateurs, par les individus qui ont pris en main aussi ce combat. Ce qui se passe, c'est qu'en France, moi quand j'ai fondé l'association, on était très très loin du stade où on est aujourd'hui. Le végétarisme, c'était sectaire. Le végétarisme, les cirques traitaient bien leurs animaux, leur donnaient bien à manger. On en était là. Et la campagne cosmétique montre qu'on peut absolument arriver à des résultats, mais en comptant sur les individus. Ça n'est pas la culture française. La culture française, c'est on s'en remet à l'État, on s'en remet aux autres. La culture anglo-saxonne, j'ai fait mes études aux États-Unis, c'est chaque individu se prend en main. Et c'est ce que nous avons essayé d'insuffler à One Voice. Et de chaque personne qui nous appelle, on leur apprend aussi à militer. On leur apprend à défendre les animaux autour d'eux, dans leur quartier, auprès de leurs voisins. On leur apprend à aller voir leur maire pour obtenir un arrêté d'interdiction d'accueil des cirques dans leur ville. Et on leur donne tous les outils. Et les gens sont heureux de cela. On a 3 personnes qui répondent juste à ces questions-là. Les cirques, les cosmétiques. Comment est-ce que je peux faire? Donc, il y a de l'espoir. Il y a énormément de choses.
En tout cas, c'est quelque chose qui avance beaucoup, en tout cas dans l'opinion publique.
Oui, tout à fait.
Et alors, depuis 2015, du côté du droit, en France, le Code civil reconnaît les animaux comme des êtres sensibles et non des biens meubles. Mais alors, selon vous, est-ce qu'il faut aller plus loin, Tiffaine Lagarde, dans la reconnaissance juridique des animaux? Il faudrait carrément reconnaître la personnalité juridique des animaux. Est-ce qu'on va pas trop loin?
Non, on ne va pas trop loin. La personnalité juridique, c'est un concept tout à fait théorique. On la reconnaît bien aux sociétés, aux associations. Pourquoi pas la donner aux animaux? Ça, c'est absolument pas un
obstacle. Qu'est-ce que ça changerait?
Ça changerait tout, effectivement, puisqu'on ne pourrait plus exploiter en fait des êtres sentients qui seraient qualifiés juridiquement de personnes. Voilà, il y aurait déjà un premier obstacle à cela. Donc effectivement, c'est pas pour demain, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et encore une fois, je suis pas sûre que ce soit forcément en pactisant aujourd'hui avec l'État qu'on obtiendra de toute façon une telle révolution, parce que le mouvement antispéciste, il est en soi de toute façon révolutionnaire vu ce qu'il propose. Donc c'est pas simplement en véganisant les marques de l'agroalimentaire qu'on obtiendra la libération animale. Moi, je pense qu'il faut une refonte complète de tout le système, y compris du système capitaliste tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, ça va beaucoup plus loin que voilà, des quelques réformettes législatives à droite ou à gauche.
Et Muriel Arnal, vous trouvez que ça n'a pas suffi de transformer ce statut?
Non, mais non seulement ça n'a pas suffi, mais c'est un trompe-l'œil. Ça a été dramatique parce qu'on a obtenu quoi? Simplement, les animaux, une phrase, sont doués de sensibilité. Ils restent des biens meubles. Il reste des biens, il reste des choses. La loi n'a absolument pas changé. Rien n'a changé dans la législation. Donc non seulement cette mesure est entièrement cosmétique et nous a fait reculer, parce qu'il faudra combien d'années encore pour obtenir une véritable réforme du Code civil? Il devrait y avoir un livre animaux, il devrait y avoir des choses très claires. Pour l'instant, un chien, un chat, même nos animaux de compagnie qui sont bien plus protégés dans la loi qu'une vache ou un cochon sont des biens meubles. C'est-à-dire qu'on en fait ce qu'on en veut. Et pour les défendre, c'est très difficile. Donc cette réforme, elle a été extrêmement, à nos yeux, contre-productive.
Et alors, Brigitte Gauthière, je voudrais vous poser une question sur l'action militante. A-t-elle vocation à s'institutionnaliser? Est-ce qu'il faut passer à la case suivante? Et notamment, il y a un parti animaliste qui est apparu en France lors des dernières élections présidentielles. Alors, même s'il est encore assez petit, il a fait 1% aux dernières élections, est-ce que c'est un modèle qu'il faudrait développer? Est-ce que les exemples étrangers aux Pays-Bas, par exemple, peuvent nous permettre d'avoir de nouvelles idées autour de ces revendications?
En fait, je crois que oui. Enfin, en tout cas, c'est la preuve que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, effectivement. C'est essayer de faire entrer aussi la question animale en politique, puisque aujourd'hui, la plupart des élus ne sont pas sensibilisés, c'est le moins qu'on puisse dire, à la question animale et se rangent toujours du côté des intérêts économiques qui exploitent les animaux. On l'a encore vu, effectivement, pendant les états généraux de l'alimentation.
Donc ça avance pas à pas.
Il y a beaucoup de choses encore à inventer, à innover. On n'en est que, enfin, de mon point de vue, on n'en est absolument qu'au début. Au tout début, et en fait on a peut-être dégrippé simplement une machine qui était complètement grippée, et maintenant il va falloir que on accélère, qu'on continue de s'immiscer dans l'ensemble des milieux pour essayer justement d'avoir effectivement les individus, effectivement les entreprises, y compris aussi les politiques. Être de plus en plus nombreux acteurs avec les possibilités qu'on a autour de nous, la puissance que nous donnent nos fonctions pour faire avancer la question animale, faire dans un premier temps reculer les cruautés qui leur sont infligées.
On a bien compris cette stratégie aussi pas à pas, et dans un premier temps cette priorité du bien-être animal.
Éviter de cliver quelque part. Enfin, le problème qu'il y avait sur la question des vitrines brisées, c'est qu'on avait la plupart du temps quelque chose de clivant. Est-ce que c'est les bouchers vs les véganes? Ben non, enfin c'est pas ça la question. C'est vraiment comment on lutte ensemble contre la place qui est assignée aux animaux aujourd'hui.
Enfin... Muriel Arnal, Tiphaine Lagarde, on arrive presque au terme de cette émission, une conclusion en quelques mots.
Nous nous sommes fondés sur l'unité des combats. Théodore Monod était notre parrain et c'est vraiment dans cet esprit. C'est que ce qui arrive aux animaux, à la planète et aux humains est lié. Et sortir la cause animale de ce tout et de l'ensemble de ces causes pour lesquelles il faut qu'on se batte, c'est ennuyeux. Il faut inclure chaque individu, animal, humain, et protéger cette planète magnifique et aller à la rencontre de ces animaux qui sont merveilleux si on prend le temps de les regarder. Et il faut écouter son cœur. Je pense que c'est fondamental et là, on a tous à y gagner. On a absolument tous à y gagner. Le réchauffement climatique, l'océan se meurt, il n'y a plus de poissons.
Et on sait que 14% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'élevage.
Donc faisons tous barrage à cela. Faisons tous barrage pour la cause de ces individus qui souffrent.
Tiphaine Lagarde, vous appelez plutôt à repolitiser le plus possible
oui,
ce débat.
Oui, mais repolitiser par l'action directe, une pratique de la politique pure et pas par les voies politiciennes. L'écologie a été récupérée par la politique, on voit ce que ça a donné.
Merci beaucoup Brigitte Gauthier, Tiphaine Lagarde et Muriel Arnal d'avoir été avec nous pour cette première partie. Dans un instant, direction le Brésil. Un grand merci à toutes les trois.
Trop souvent, c'est rien, c'est que des animaux. Parce que c'est vraiment hors de question de baisser les bras. Et j'ai ce qu'il faut pour faire sauter ta prison cérébrale. Que j'ai la chance de pouvoir utiliser l'impact des mots. Et que j'entends trop souvent, c'est rien, c'est que des animaux. Nos œillets ont bougé, obligés, on rentre dans le tas. Laisse-nous être la voix de ceux qui n'en ont pas. Tout d'abord, je voudrais m'excuser en face de ceux qui ont été choqués par ces discours peu facétieux. Donc aux personnes offusquées, mesdames, messieurs, désolé de vous foutre la vérité en face des yeux. Avant que j'embrasse les cieux, je me dois bousculer les mentalités. Il se peut que j'y passe mes vieux jours, car c'est vraiment loin d'être gagné. J'ouvre une page dans mon cahier que je verrai sûrement jamais fermée. Eh bien par là mec, quoi t'es déjà tout vert. Deuxième volet ouvert, tes excuses vont passer par la fenêtre. Notre culture mériterait le décrassage que le massacre. Ouvrez les oreilles, les consciences, ouvrez les cœurs au passage. Ce son c'est la guerre, ouais peut-être je t'offense. Mais l'humain écoute plus facilement quand on lui parle avec violence. Appris de l'hypocrisie, les femmes et enfants de bas âge. Je suis venu foutre la merde comme du cheval dans des lasagnes. Je parle de massacre, du plus grand zoocide de l'histoire auquel on participe de vive voix. Pas une passade en façade, ouais il paraît trompette. Les animaux n'ont pas la parole mais les chiffres te parleront peut-être. Je vais te les dire sur la piste, plus de 100 milliards d'êtres sensibles tués par an pour notre simple plaisir gustatif. Je désire juste pas qu'ils s'en restent à l'état d'objet. On a réduit leurs existences au statut de machine. Dis aux critiques qu'ils parlent de la souffrance de la salade tout en se gavant de barbac. C'est des pipeaux finis, disons faut être malade pour pas flairer l'arnaque. Leur irrespect du vivant n'a d'égal que leur hypocrisie. Viens en abattoir rattraper notre retard. Regardez ces horreurs qui vous feraient tous vomir votre pas. Écoute-leur, souffrance, leur douleur que l'on accepte pour l'heure. Y'a comme un coup de meurtre dans nos assiettes. On s'en donne à cœur, joie à niquer la planète. Celle qui nous allaite, on bouffe le bras de notre donateur. Arrête, gars, je veux bien dire qu'ils nous la mettent. Mais en tant que consommateur, c'est bien nous qui tenons les manettes. Faut l'admettre et cesse donc de brailler. Y'a plus important à faire quand ton nombril reste en centre d'intérêt. Désolé de vous déranger, l'ignorance est confortable. Je rappe avec le cœur, considère ça comme un don d'organe. Parce que j'ai la chance de pouvoir utiliser l'impact des mots.
Et c'est sur Earthlings 2 du rappeur végétalien Rex Turner que l'on se dirige vers le Brésil. Le géant de l'Amérique latine s'apprête à vivre l'élection présidentielle la plus incertaine depuis son retour à la démocratie il y a 30 ans.
Le magazine du week-end, Tiphaine de Roquigny.
C'est un nouveau test pour la jeune démocratie brésilienne. Il s'annonce particulièrement périlleux. La campagne présidentielle pour les élections d'octobre a été officiellement lancée cette semaine. Et pour l'heure, le grand favori est en prison. L'ancien chef d'État Lula a été condamné à 12 ans de réclusion pour corruption. En seconde place dans les sondages, Jair Bolsonaro, le candidat de l'extrême droite, qui rêve de restaurer l'ordre militaire dans un pays miné par la violence, la défiance envers la classe politique et la crise économique. Alors 2 ans après la destitution de Dilma Rousseff, qui a coupé le pays en deux, le Parti des travailleurs peut-il vraiment revenir au pouvoir? Quel sens donner à la popularité de Jair Bolsonaro? Et le Brésil suivra-t-il le virage à droite de l'Amérique latine? On va en discuter avec nos deux invités. Bonjour Lise Ferré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé 12 ans pour la chaîne brésilienne Globo à Paris. Et par ailleurs, vous êtes enseignante en sciences de l'information et de la communication à Paris 8. À vos côtés, Alfredo Valadao, bonjour.
Bonjour.
vous.
Merci également d'être là. Vous êtes professeur à l'École des Affaires Internationales de Sciences Po Paris, anciennement directeur de la chaire Mercosur de Sciences Po. Alors hier, le comité des droits de l'homme de l'ONU, on l'entendait dans le journal de la rédaction, saisi par les avocats de Lula, a tranché. L'ancien chef de l'État doit être autorisé à participer à l'élection présidentielle tant que tous ses appels en justice n'ont pas été examinés. Selon eux, alors techniquement, Lise Ferré, le Brésil est obligé de respecter cette décision.
Non, elle n'est pas obligée. D'ailleurs,
c'est... Le Brésil a ratifié les textes, en l'occurrence.
En fait, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer jusqu'au 5 septembre. Mais ce n'est pas du tout certain que ça se fasse. Je ne pense pas, non.
Non, il y a un petit problème. D'abord, ce n'est pas une décision de la Commission des droits de l'homme. C'est un avis d'un comité d'experts qui travaille pour ça. Donc, d'abord, il y a ça. Ensuite, toutes les décisions de la Commission des droits de l'homme ne sont pas du tout obligatoires. C'est-à-dire, il n'y a rien. Donc, et troisième chose très intéressante, c'est comme si la Commission des droits de l'homme de l'ONU demandait à la justice brésilienne d'ignorer ses propres lois pour permettre à Lula de se présenter. Après, on en parlera de qu'est-ce qui se passe, mais voilà.
Et il y a également le fait que la loi Ficha Limpa, casier propre, rend inéligible toute personne condamnée en deuxième instance, ce qui est le cas de Lula. Donc là, on attend cette décision, mais vous êtes assez peu optimiste quant à la possibilité que Lula soit vraiment candidat à Alice Ferrer.
Oui, parce que en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas que ça. Il y a toute l'affaire qui doit être jugée. Mais pour l'instant, je vois des possibilités très minces.
En revanche, il peut concourir, Alfredo Valadao. Il remportera l'élection. Il est largement favori à l'heure actuelle.
On ne sait pas. On ne sait absolument pas. D'abord, il ne pourra pas concourir probablement, à moins que la pression politique fasse que la justice ignore ses propres lois. Mm-hmm. Parce que c'est clair, c'est une loi qui a été signée par Lula, qui a été mise en avant par Lula. C'est-à-dire qu'il est inéligible. Ça, c'est une chose. Mais même s'il pouvait concourir, il a bien 30% des voix, mais il a aussi un taux de rejet très fort. Mm-hmm. Donc on ne sait absolument pas s'il peut, gagner ces élections.
J'aimerais que Lula soit ici, avec nous, au moment où nous formons ensemble le ticket présidentiel qui remportera la prochaine élection. Nous savons ce qui se passe au Brésil. Nous savons que Lula a été piégé. Nous savons que son procès est prévu depuis le début pour qu'il ne puisse pas se présenter. C'est une imposture. Aucun délit n'a été prouvé. Il n'y a pas l'ombre d'une charge pesant contre le président Lula.
On entendait la voix de Fernando Haddad, le colistier de Lula, au moment du dépôt de la candidature de l'ancien chef d'État il y a quelques jours. Haddad, l'ancien maire de Sao Paulo, est quasiment inconnu. S'il devait remplacer Lula, Lise Ferré, il aurait peu de chances de l'emporter ?
Quasiment aucune, à mon avis. Parce que déjà, Haddad n'est pas... D'abord, il est très difficile de faire face à un tel charisme, même s'il est... pour certains, en déclin de Lula. Mm-hmm. Donc, il y a ça. Et il y a aussi, il est très peu expressif sur la scène nationale.
Parce qu'il y a encore cette idée que Lula va concourir. Mais alors justement, cette idée selon laquelle le capital politique de Lula pourrait être transféré au dernier moment, comme ça, à son colistier, ce qui est en quelque sorte le pari du Parti des Travailleurs. Est-ce que c'est une stratégie qui vous paraît efficace, Alfredo Valadao? Est-ce qu'au contraire, ça ne risque pas de poser problème et de l'empêcher de gagner en visibilité?
Pour l'instant, la stratégie du PT, c'est de gagner la bataille de la communication. Tous les jours, ils font quelque chose comme ça, dans la justice, ils font pression sur la justice pour essayer d'être dans les médias. Ça, c'est une première chose. Et c'est vrai que tout le monde ne parle plus que de ça, quand en fait, il y a beaucoup d'autres candidats, beaucoup d'autres choses.
C'est une
première chose. Ensuite, l'autre chose, c'est que le PT, en tant que parti, a reçu une vraie leçon aux dernières élections municipales. C'est-à-dire que le PT est un parti qui est dans une situation très mauvaise. Et Haddad, comme a dit Lige, n'a aucun charisme dans ce cadre-là. Donc, la stratégie actuelle du PT est une stratégie très dangereuse parce qu'ils essayent de faire, d'être candidat contre Bolsonaro à la fin, en espérant qu'ensuite tout le centre va venir se joindre au PT contre très Bolsonaro. Dangereux. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux, puisque Bolsonaro a aussi des chances de pouvoir remporter l'élection.
Vous êtes d'accord, Lise Ferré, ça risque d'aggraver le clivage au sein de l'opinion publique et d'offrir un boulevard à l'extrême droite, cette stratégie jusqu'au boutiste du PT?
Oui, je pense qu'ils font des petites erreurs de stratégie, surtout de communication. Il y a des nouveaux personnages qui apparaissent dans le débat public, sauf que à mon sens, ils se prennent un peu mal et ça porte préjudice au PT. Et ça ouvre, en revanche, ça ouvre des portes à un discours d'extrême droite qui est très dangereux et très antidémocratique.
Vous parliez de Jair Bolsonaro, on va
entre autres.
Moi, je veux respecter la majorité et pas la minorité, vous comprenez? Si je parle de la peine de mort, c'est parce qu'une minorité de voyous terrorise la majorité des gens honnêtes. Quand on voit qu'à Rio, des citoyens ont attrapé dans un bureau de poste un clochard qui était mineur, moi, je pense qu'on devrait avoir une politique qui nous permette de mettre ces gens en prison. On devrait abaisser l'âge de la responsabilité pénale au lieu de défendre ces criminels comme s'ils étaient exclus de la société. Ce ne sont pas des exclus, ce sont des fainéants qui devraient être traités comme tels.
Jair Bolsonaro, il y a un an et demi, juste avant que son parti, le Parti Social Libéral, ne l'investisse pour la présidentielle, le candidat d'extrême droite se présente comme l'outsider de la politique alors qu'il est député depuis près de 30 ans. Il a connu un succès très important dans les sondages ces derniers mois. Aujourd'hui, il a entre 19 et 24% des intentions de vote. Comment expliquer ce succès, Lise Ferré?
Je disais tout à l'heure à Alfred que je pense il joue sur les mots. Et là, c'est tout est dans le discours. C'est-à-dire que on retrouve une population qui est très abusée, qui en a marre de tout ce qui se passe, de toute cette crise morale, politique, économique que le pays traverse. Et depuis 2013, il y a eu donc cette grande manifestation que le Brésil a connue, qui a beaucoup changé le débat et qui fait que Bolsonaro, en fait, il a de la popularité parce qu'il joue essentiellement sur l'ordre et la sécurité.
Or, il y a eu un record d'homicides en 2017. Plus de 60 000 personnes ont été assassinées. Alfredo Valadao, c'est d'abord en jouant sur la sécurité que Jair Bolsonaro a ce succès?
Entre autres. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait eu 64 000 homicides au Brésil en 2017, c'est quelque chose d'énorme, c'est atroce. La ville de Rio, pratiquement tous les jours, il y a quelque chose d'horrible. Donc les gens commencent à se dire il faut trouver une solution. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une dégradation. Pendant l'époque de Lula et ensuite pendant l'époque de Dilma, il y a eu une dégradation des services publics, une augmentation de la corruption. L'État n'est plus présent. Donc les gens ont un besoin d'ordre dans cette affaire. Et je crois qu'il y a un troisième élément très intéressant, c'est l'exemple du Venezuela. Au Brésil, il y a beaucoup de monde qui commence à se dire « on ne veut pas que le Brésil devienne un Venezuela ». Or, ce qui se passe actuellement au Brésil, c'est que le Brésil a pratiquement fondu. C'est-à-dire que la classe politique n'est plus crédible, l'économie est partie à volo, etc. Donc, il y a un besoin d'ordre chez les gens très fort et ça pourrait donner un espace à l'extrême droite.
Les adversaires du Parti des Travailleurs jouent sur cet anticommunisme.
Ce n'est pas l'adversaire du Parti des Travailleurs, c'est l'adversaire de tout le monde.
Il y a une autre information qui est importante là-dessus, c'est que la structure du pays est une structure de classe très marquée, esclavagiste, qui fait que depuis que Lula, et ça on le doit à Lula et son charisme, c'est que la population la plus modeste a pu s'identifier et être fière, par exemple, d'être noire, d'être pauvre, et de conquérir ses biens de consommation, et puis accéder à l'université, etc.
30 millions de personnes à peu près qui seraient sorties de la pauvreté.
Oui, 35 à 40
la présidence de Lula.
Exactement. Alors, ce qui fait que ça, c'est important au niveau de toute une estime de soi de cette partie de la population qui était complètement laissée de côté par ce genre de structure de pouvoir de droite, parce que le Brésil joue toujours sur le nom, c'est toujours social démocratique les partis, mais c'est toujours des partis qui ont hérité de la dictature militaire. Et donc quand il y a cet ouvrier qui apparaît sur la scène nationale et internationale, ça change tout. Et cette population qui avait gagné en estime de soi, etc., elle va se retrouver sans rien du tout.
Mais alors justement, vers qui ces minorités vont-elles se tourner aujourd'hui? Quel serait leur candidat de prédilection, Alfred de Valadao?
Il y a un problème, et je suis d'accord avec ce que dit Lise, c'est qu'il y a aussi le résultat de l'échec du gouvernement Lula à la fin et celui de Dilma après, à créer une énorme désillusion vis-à-vis de tout ce qui se passe. Parce que même dans cette population-là, il y a plein de monde qui dit « mais on a été trahi quelque part ». On est aujourd'hui avec un taux de chômage encore plus grand. Une partie des gens qui avaient réussi à sortir un peu de la pauvreté sont en train de retomber dans la pauvreté. La violence est très forte, etc. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Parce que la classe politique elle-même ne s'est pas renouvelée. C'est-à-dire, on verra aujourd'hui dans les élections, parce qu'il n'y a pas que les élections présidentielles, il y a aussi les élections législatives, la plupart des gens qui se présentent, c'est toujours les mêmes. Il faut pas oublier qu'il y a 40% des parlementaires brésiliens qui sont mis en examen. Et qu'il n'y a pas que Lula qui est en tôle, il y a une série de gens de droite qui sont en tôle, y compris le président de la Chambre qui avait dirigé la destitution de Dilma. Donc, on se retrouve dans un pays qui est un peu à volo dans cette affaire-là. Et les gens disent tous que si le vote n'était pas obligatoire, il y aurait un taux d'abstention absolument énorme dans cette affaire.
Et la population baigne dans un climat où on destitue une présidente légitime pour mettre à la place un vice-président qui est, lui... que contre lui, on a vraiment des preuves de corruption et pas des moindres. Donc c'est quelqu'un de complètement illégitime qui coule le pays et ça ouvre avec tout ce qui s'est passé. La montée des minorités qui ont une voix, des minorités qui sont majoritaires d'ailleurs, parce qu'ils sont plus de 54%, donc dans le cas des Noirs par exemple et des Métis, qui se disent voilà, on est fiers d'être Noirs, on est fiers d'y accéder et on a notre voix. Une montée d'intellectuels. Et ça, c'est quelque chose qui fait que on retrouve une population, des populations en bloc et on rage entre elles.
Pour finir sur le volet économique, alors on a eu quand même 2 ans de récession au Brésil en 2015 et 2016. Il y a un retour timide de la croissance, 1% l'année dernière. Aujourd'hui, 90% des Brésiliens soutenaient le mouvement des routiers contre la hausse du prix des carburants, en disant que la vie est trop chère. Cette question de la pauvreté, du chômage, malgré ce timide retour de la croissance, elle va être absolument centrale pour vous, Alfred Valadao, dans cette campagne.
Oui, bien sûr, mais c'est plus grave que cela. Ce qui s'est passé, c'est que le modèle économique brésilien depuis peut-être 200 ans, qui est d'exploiter des matières premières et ensuite distribuer plus ou moins l'argent avec cet argent-là, c'est fini. C'est-à-dire on vit dans un autre monde. Il faut que le Brésil se modernise. Les industries brésiliennes dépendent de subventions de l'État et de protection de l'État, autant que les travailleurs, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le monde vit de l'argent de l'État, ce qui fait que le Brésil ne peut plus fonctionner. On a des problèmes gravissimes d'infrastructures, etc. Et on ne voit pas toujours aujourd'hui qui ou quoi pourrait remplacer ce qu'il y a en place. C'est ça, il y a une sorte de désespoir qui existe, oui. Parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait sortir le Brésil de ce marasme, pour l'instant en tout cas.
Bah alors justement, vous parlez de cette défiance envers la classe politique, on a l'impression que cette défiance est extrêmement forte, et qu'en même temps, la confiance envers l'armée n'a jamais été aussi forte. Est-ce qu'il y a cette idée selon laquelle l'armée incarnerait ce retour à l'ordre, Lise Ferré?
Oui, ça, en fait, il y a une... Après, comme vous disiez au début, de votre reportage, il y a eu une espèce de mouvement avec l'UPT qui est mis en cause, enfin, et puis toutes les parties confondues, qui est de cette frustration quand on voit, par exemple, un député fédéral qui gagne 8000 euros et un travailleur moyen qui gagne 600 euros par mois. Donc, sachant que le salaire minimum, il est à 239 euros équivalent. Donc, quand on voit un scénario comme ça, on se dit le désespoir est tel qu'il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Et donc, comme il y a ce discours de la droite dure, avec une montée même des mouvements des jeunes, de jeunes avec beaucoup de charisme et qui ont beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux, pour dire, voilà, il faut que l'État fasse quelque chose. Donc, on a ce discours-là qui est déjà de Dieu, parce que le Brésil est très catholique. Mmh. Déjà, grâce à Dieu, on va déjà mentionner Dieu. Deuxièmement, mentionner qu'on va résoudre, l'État va résoudre vos affaires. L'État va être présent et tout ça. Donc ça a une incidence sur la population. Et deuxièmement, la sécurité.
Je voudrais qu'on reste un petit peu sur cette question militaire, parce qu'au-delà de Jair Bolsonaro, qui joue beaucoup sur cette carte, il y a une centaine de militaires en service ou à la retraite qui s'est engagé dans la campagne électorale. C'est un phénomène inédit par son ampleur, Alfredo Valadao.
Par son ampleur, parce qu'il y a, déjà eu beaucoup de candidatures militaires ou d'ex-militaires, ça existe. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'après la dictature militaire, le retour de la démocratie, l'armée et les militaires...
À la fin des années 80.
Oui, ont été assez malins pour rester en retrait et de dire, nous, on représente un peu l'État en tant que tel, on est neutre par rapport à la politique. Et ils ont fait quelques interventions dans les favelas, trucs comme ça, où la population trouvait que c'était bien. Ça n'a pas toujours été bien, mais il y a eu aussi des résultats. Donc, les militaires, depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, ont plutôt une bonne image au Brésil à cause de ça, parce qu'ils se présentent toujours comme nous sommes un peu extérieurs à tout ça. Et d'ailleurs, ce que disent les candidats militaires actuellement va dans le sens de ce que dit Lise. Elle dit, nous, on est simplement l'ordre, on veut que le pays fonctionne de nouveau, voilà.
Mais alors, est-ce que ça signifie que la mémoire de la dictature militaire commence à s'effacer, Alice Ferré?
Oui, la mémoire... s'effacer, je ne sais pas, mais mal comprise, mal saisie. Surtout parce que, c'est les jeunes générations, et pour dire de ce que disait Alfred, à Rio, par exemple, il y a pas une intervention, mais il y a les militaires qui s'en chargent, en quelque sorte, de la sécurité, et ça ne marche pas non plus. Mmh. Donc, il faut voir aussi quelle est l'action, la communication et les réels effets.
Oui. Alfredo Valadao, vous diriez qu'on a oublié les abus de la dictature militaire aujourd'hui au Brésil?
Oui, oui. Non, c'est pas qu'on a oublié, mais comme partout, on a une nouvelle génération qui n'a pas vécu ça, c'est normal. La plupart des Brésiliens n'ont pas vécu la dictature militaire. Et il y a encore des nostalgiques de la dictature, mais pas de la dictature, mais du soi-disant miracle économique qui existait pendant la dictature. Donc, on se retrouve avec... mais ce n'est pas un phénomène seulement brésilien. Si vous regardez ce qui se passe en Europe avec la montée des partis populistes, etc., on est un peu dans le même genre de choses. C'est surtout les jeunes qui n'ont pas vécu tout ça, qui se disent, il nous faut de l'ordre, il faut des gens qui soient sérieux, qui fassent les choses sérieusement, qui rétablissent la sécurité, les services publics, etc., etc. Et voilà. Alors, que les militaires soient capables de le faire, probablement pas. Mais c'est ça le drame, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas qui est capable de faire ça au Brésil, parce que n'importe quel autre candidat qui serait élu aura énormément de difficultés pour gouverner, parce qu'on aura le même congrès ou le même type de congrès, etc. Donc, on est un peu dans une situation difficile.
Sur l'intervention militaire encore, il y a aussi le fait que même les gens qui ont vécu pendant ces années-là au Brésil la dictature militaire, parce que c'est récent, entre guillemets, les gens qui ne faisaient pas de vagues, il n'y avait aucun problème. Donc ils se disent, mais pendant la dictature, moi j'ai bien vécu. Bah, bien sûr, les gens n'étaient pas là à protester ou faire quoi que ce soit, donc tout allait bien. Et donc, même les générations, donc c'est pour ça que l'héritage de ce qui était l'histoire de la dictature n'est pas passé aux jeunes. Et donc, on a un système d'éducation qui est très faible et qui ne... C'est pas comme en France, par exemple, qu'on a la mémoire, on s'est enseigné à l'école l'histoire des grandes guerres, des comment ça s'est passé, tout ça. Au Brésil, ça s'est très très peu parlé.
Mais alors jusqu'à quel point cette participation grandissante des militaires à la vie politique, c'est un danger pour la démocratie brésilienne? Est-ce qu'il y a un danger de dérive autoritaire, Alfredo Valadao?
Si le pays continue à ne pas trouver de solution à ces problèmes économiques et sociaux, et que la classe politique continue à être la même, corrompue, et essayant de passer par-dessus les lois, etc., à un moment donné, il y a danger d'autoritarisme, parce que les gens vont demander cela. Donc on est devant un moment très sérieux, et ces élections sont très sérieuses, y compris pour les candidats eux-mêmes, de savoir, ok, vous vous présentez, mais qu'est-ce que vous proposez réellement, concrètement, pour résoudre un minimum les problèmes quotidiens concrets des gens. Parce que si ça n'est pas résolu, effectivement, on risque de basculer dans un autoritarisme qui au Brésil est toujours un peu plus compliqué qu'ailleurs, parce que c'est un autoritarisme qui permet aussi un certain nombre de libertés, voilà, etc. Mais
parce que quand on entend Jair Bolsonaro, il explique qu'en cas de victoire, il nommerait plusieurs militaires au gouvernement, et son colistier, le général Antonio Hamilton Mourão, a carrément défendu une intervention de l'armée en 2015. Il y a de quoi s'inquiéter, Lise Ferré.
Énormément, d'ailleurs. Il ne cache plus ses discours de haine, d'ailleurs, il incite. Et surtout, c'est les minorités, et y compris les femmes. Il est très hostile aux femmes, il est très, très misogyne. Et je dirais, il y a eu un reportage que j'ai lu d'un journal français qui le comparait à Trump. Mais je pense que c'est un compliment de le faire, parce que c'est une caricature, parce qu'il est mal préparé,
notamment sur les questions économiques, il avoue surtout, ne rien y connaître.
Il en est même fier, et surtout, il nie toute avancée au niveau des minorités, parce que pour lui, par exemple, l'esclavage, il en a rien à faire, c'est pas son problème, donc il y a rien à faire là-dessus. Et donc le mythe de la démocratie raciale, par exemple, ça serait maintenu, entre autres.
Alors il connaît rien aux questions économiques, mais il a quand même su séduire une bonne partie des milieux d'affaires, et notamment en choisissant Paulo Guedes comme allié, et qui est un économiste ultralibéral. Aujourd'hui, on peut dire que le milieu des affaires est vraiment en grande partie derrière Jair Bolsonaro.
Non,
Alfredo Valadao.
On ne peut pas dire ça. Et Paulo Guedes n'est pas un ultralibéral. Au Brésil, il n'existe pas d'économistes ultralibéraux. Le Brésil est un pays très bizarre, où la plupart des économistes sont plutôt bon teint sociodémocrates, la plupart. Donc, non, les milieux d'affaires ne sont pas derrière Bolsonaro. Les milieux d'affaires risquent de se mettre derrière Bolsonaro si c'est la seule option face à un retour de Lula. Ça, c'est un peu le problème. Et c'est ça qui me fait peur dans la stratégie du PT. Parce que le PT essaye de faire que le deuxième tour soit entre le PT et Bolsonaro, en se disant « le centre va nous rejoindre contre Bolsonaro ». Et je ne suis pas du tout sûr que cela puisse arriver, au contraire.
Il y a un autre candidat dont on n'a pas parlé, c'est Geraldo Alckmin, le candidat du PSDB, le parti de la social-démocratie brésilienne, qui est plutôt centre-droit. Est-ce que lui pourrait être considéré comme un rempart contre la gauche et l'extrême droite, Lise Ferré?
Je ne pense pas. Et d'ailleurs, quand on parle de positionnement des partis au Brésil, je suis complètement larguée, parce que j'ai l'impression que c'est mal conçu, ça. C'est mal conçu. Par exemple...
Pour vous, ce n'est pas du centre-droit.
Non, pour moi, ce n'est pas du centre-droit, d'ailleurs, dans le mode d'action et dans le discours qu'il véhicule. Parce que si vous voyez tous ces partis-là, à part les partis bien marqués à gauche, ce parti-là, ils ont tous hérité de l'idéologie de la dictature militaire. Ils ont juste changé le nom pour démocrate et social-démocrate, social...
Là, je mettrais une nuance. Je pense que la plupart des partis au Brésil, et aujourd'hui même le PT, ne sont ni de droite ni de gauche. Parce que c'est des partis qui ne veulent que les prébendes du pouvoir. La plupart des... Il ne faut pas oublier que le Brésil a 30 et quelques partis, dont presque 20 au Parlement, et que ces types ne sont là que pour avoir quelques prébendes, prendre de l'argent, etc., etc. Donc, on est devant une sorte de classe politique générale très opportuniste. Hein. Et quand je pense à Hao Ki-Ming, il a un surnom assez terrible au Brésil. On dit que c'est un esquimau de dos.
Oui, on lui reproche son manque de charisme.
Ah oui,
c'est peu de le dire.
Sauf qu'il faut faire très attention. La loi brésilienne, pendant la campagne électorale, donne un temps de télévision. Et lui, comme il a réussi à faire une grande alliance de tous ses partis opportunistes, il aura le plus grand temps de télévision et de loin de tous les autres. Donc on ne sait pas ce qui va se passer pendant l'élection. Peut-être qu'il peut remonter à cause de ça.
Dans cette incertitude dont parlait Alfredo, de on ne sait pas si c'est gauche-droite et tout ça... C'est là où Bolsonaro commence à gagner de l'espace. C'est là où on ouvre un boulevard pour lui. Parce que lui, il est marqué. Il dit, moi, je défonce. Donc, c'est ça, c'est dangereux. Et notre démocratie brésilienne, je dirais qu'elle est... Elle est vraiment sur un fil, mais très, 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 très fin, et ça éclate à n'importe quel moment.
Vous parliez, Alfredo Valadao, des temps de parole dans les médias. Ce qu'on a vu, c'est que Jair Bolsonaro, lui, a réussi à devenir très populaire, malgré des temps dans les médias extrêmement réduits. Est-ce que, finalement, cette campagne va peut-être nous apprendre que la télévision n'a plus le rôle central qu'elle joue habituellement dans les élections présidentielles au Brésil ? Désormais, c'est sur les réseaux sociaux qu'on se fait élire.
Les réseaux sociaux sont extrêmement importants, mais il ne faut pas négliger la force de la télévision, parce que le Brésil est un pays énorme, hein, avec du nord au sud, avec des gens, il y a beaucoup de monde n'a pas accès à Internet, et tout le monde a accès à la télévision, même dans les coins les plus reculés du Brésil. Et donc la télévision va encore jouer un rôle très 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 important, beaucoup plus que n'importe quel journal. Hein. Les journaux sont très pollus, ça joue dans une petite classe moyenne haute, voilà, c'est tout. Mais les réseaux sociaux deviennent très importants dans une campagne.
Par contre, tout va se passer à la télévision avec son pouvoir d'antenne et ça va être relayé par les réseaux sociaux. Et c'est là que ça va gagner de l'ampleur du côté bon ou mauvais et puis souvent de mauvais côté. Hein. Les réseaux sociaux, on dit que, et dans ça... Ça prend de l'ampleur.
Et en tout cas, on peut aussi dire un mot sur la stratégie du PT, donc qui n'a pas encore de candidat puisque Lula est en prison et donc aucun candidat du PT n'a pu participer au premier débat télévisuel la semaine dernière. Donc c'est aussi un point important. Et je voudrais qu'on dise un mot de l'état de la justice aujourd'hui au Brésil. Alors il y a eu un épisode début juillet où Lula a failli être libéré sur décision d'un juge avant d'être désavoué par le rapporteur du dossier de Lula. Donc on a l'image d'une justice complètement déboussolée et de plus en plus politisée, à l'image finalement de la société brésilienne, cette polarisation dont on parle.
Moi, je suis moins sûr que ça. C'est-à-dire que la justice au Brésil est très compliquée, d'abord. C'est-à-dire que le nombre de possibilités d'appels, de contre-appels, de choses comme ça, a été fait pour que quelqu'un qui a de l'argent ou qui a du pouvoir politique puisse s'en sortir. Hein, donc ça, c'est une première chose. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une jeune génération de juges et de procureurs qui veulent faire leur boulot. Alors parfois un peu trop durement, ce qu'ils veulent, mais ils veulent faire leur boulot. Donc on peut dire aujourd'hui qu'au niveau de la première instance et de la deuxième instance, il y a des gens sérieux qui font leur boulot, et c'est les gens qui ont fait le jugement de Lula et le jugement des politiciens de droite qui sont en prison. Hein. La question se pose, c'est au plus haut niveau. Là, oui, la Cour suprême, il y a une politisation croissante. Et ça, c'est très dangereux, parce que c'est la Cour suprême qui doit garantir l'indépendance de la justice. Donc, il faut faire attention. La justice brésilienne, c'est pas vrai qu'elle est totalement politisée. Il y a des gens sérieux et des gens qui font leur boulot, mais au plus haut niveau, elle commence à être très politisée. Donc ça, il faut faire attention.
Alors justement, la Cour suprême brésilienne s'est saisie début août du débat sur l'IVG. À l'heure actuelle, il est encore interdit au Brésil, sauf en cas de viol, de risque pour la vie de la mère ou d'anencéphalie du fœtus. En Argentine, on l'a vu, le Sénat a voté au début du mois contre la loi dépénalisant l'avortement. Est-ce que ça va être un sujet important, là encore, dans la campagne? Et est-ce que les lignes pourraient commencer à bouger sur le sujet?
Bouger du mauvais sens, parce que avec les discours très catholiques, faussement catholiques, on va dire, les gens ont quasiment une parcelle de la population a presque envie d'entendre des discours contre l'avortement pour pas parce que c'est Dieu, etc. Et donc ils jouent là-dessus. Donc je pense que ça va avoir une très mauvaise évolution, parce que quand Dilma Rousseff elle a essayé de faire quelque chose dans ce sens en 2013, si je me trompe pas, l'idée c'était vraiment mal reçue. On disait voilà, c'est une femme, elle est même pas mariée, etc. Parce que le Brésil il est très conservateur. De base.
Et alors,
il ne faut pas oublier autre chose. Ce n'est pas simplement le catholicisme ou le faux catholicisme. C'est qu'au Brésil, on a une montée très importante des groupes conservateurs évangélistes.
Ah, aussi.
Et c'est eux qui sont les plus durs contre l'avortement et qui commencent à avoir une certaine représentation politique assez forte.
À tel point que Jair Bolsonaro lui-même s'est converti à l'évangélisme.
Oui, mais il y a énormément de députés évangélistes. Il y a une influence des évangélistes très très fort contre l'Église catholique d'ailleurs.
Et alors est-ce que quelqu'un comme Marina Silva qui a quand même fait 20% des suffrages au deuxième tour en 2014, qui est la candidate de l'écologie, qui elle porte cette question de l'avortement, est-ce qu'elle pourrait quand même jouer un rôle dans cette campagne?
J'ai pas l'impression.
Moi, j'ai pas l'impression non plus.
Ouais, j'ai pas l'impression.
Elle n'arrive pas du tout à s'imposer.
Non, ça fait longtemps d'ailleurs. Je pense que c'était depuis les élections passées. Elle a joué très mauvaise stratégie. Déjà qu'elle n'avait pas énormément de charisme et pas énormément de représentativité non plus. Donc elle s'est mise dans cette situation et je pense pas qu'elle aurait une chance.
En plus, elle est très seule. Elle n'a pas beaucoup de monde autour. En plus, elle est écologiste d'un côté, mais elle est très conservatrice en matière de mœurs, parce qu'elle est évangéliste, elle aussi. Donc, ça crée une espèce de fausse identité là-dedans qui brouille son image. Alors, c'est vrai que c'est une femme pauvre, etc., écologiste, qui vient d'une région pauvre, etc. Ça lui a permis d'avoir 20% des voix aux dernières élections. Mais là, elle est vraiment un peu seule face à ce qui se passe.
Tout à l'heure, Lise Ferré, vous abordiez la question des minorités, qui sera également importante dans cette campagne. On est 6 mois à peu près après l'assassinat de Marielle Franco, cette élue municipale qui avait voulu instituer un contrôle démocratique sur l'action de l'armée et des milices dans les favelas. Et on n'a jamais identifié ces criminels. Cette question des milices, elle est centrale encore aujourd'hui?
Oui, elle est centrale et ils font la loi. On est à quasiment 6 mois de l'assassinat en pleine rue de cette chargée municipale.
Élue municipale.
Et
portait la question noire, qui était également lesbienne.
Exactement. Et puis, avec elle, il y avait là un charisme. Il y avait là un charisme de femmes engagées et d'une gauche qui prenait des vrais sujets.
Alfredo Valadao, un mot de conclusion, on arrive presque au terme de cette émission.
Ce qui est terrible dans une ville comme Rio, c'est que dans les quartiers populaires, ceux qui font la voix, c'est d'un côté les milices, de l'autre côté les groupes de trafiquants de drogue. Et qu'il n'y a personne capable de s'interposer là-dedans et de trouver une solution. Le gouvernement du PT, sous Lula et sous Dilma, ont laissé cela à volo. Le nouveau gouvernement avec des maires ont laissé ça à volo. Les gouvernements des États fédérés laissent ça à volo. Les prisons sont tenues par les trafiquants de drogue.
Exactement.
À l'intérieur. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer de très vilain là-dedans.
Oui, les trafiquants. Et on a la population au milieu. et les milices de l'autre côté. Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, Alice Ferré, Alfredo Valadao, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce sera l'occasion de faire une autre émission aussi sur cette question des milices, de la violence, qui est une vaste question. Et merci à toute l'équipe du magazine du Week-end, Amélie Perrault, Clara Garnier-Amourou, Catherine Donnet. Une émission réalisée par Elisabeth Miro et mise en onde par Alexandre Dang. Et on se quitte sur « Andar con fe, marcher avec foi » de Gilberto Gil.
Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh, meu Deus, lá, lá. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Café tá na manhã, café tá no anoitecer. No calor do verão, a fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Oh, meu Deus, lá, lá. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Até ou de avião, mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar.
Et demain, on reviendra sur l'accord européen qui a permis de répartir les 141 migrants de l'Aquarius. Pourra-t-il servir de modèle pour l'avenir ? Puis on s'intéressera à la Grèce. Après 8 ans de tutelle, Athènes s'apprête enfin à voler de ses propres ailes. Mais d'abord, on retrouve Nicolas Martin pour les idées claires. Excellente journée sur France Culture.